VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro. Bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le président mozambicain Philippe Nyusi s'est dit aujourd'hui prêt à poursuivre les négociations de paix avec le successeur du chef historique de l'opposition, Afonso Dhlakama, un ancien guerriero décédé la semaine dernière. Je continuerai sur le chemin que nous avons entamé ensemble, celui qui conduit à la paix. Je suis prêt pour cela, a déclaré M. Nyusi au cours d'une cérémonie d'hommage à son rival de la résistance nationale du Mozambique, la RENAMO. Dirigeant historique de la résistance nationale du Mozambique, depuis 39 ans, Afonso Dhlakama est mort le 3 mai à l'âge de 65 ans des suites d'une maladie dans son camp retranché des montagnes de Gorongosa dans le centre du pays. Sa mort inattendue a jeté le doute sur l'issue des discussions de paix qu'il avait récemment entamées avec M. Nyusi. Au Cameroun, l'opposition s'organise en vue de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. L'avocat anglophone Akere Muna s'est déclaré candidat à la présidence, alors que son pays connaît depuis un an une crise en zone anglophone. Akere Muna a fait des propositions pour la résolution de la crise anglophone.
Dans un premier temps, il faut changer le gouvernement, parce que le gouvernement a montré ses limites, il n'a pas de solution. La seule solution que le gouvernement trouve, c'est la répression. On en est où, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on a carrément 40 000 Camerounais réfugiés au Nigeria. On a un nombre quasiment égal de Camerounais qui sont déplacés à l'interne. Ça, c'est grave. Il faut un changement systémique assez profond qui prend en compte la jeunesse, parce que je vous dis carrément, le Cameroun n'est pas différent des autres pays africains, où 70% de la population est en dessous de 30 ans. On a quand même un président qui a mis 36 ans et qui a 85 ans. À cet âge-là, même si on est très capable, on a tendance à déléguer. Et je pense que ceux qui bénéficient de cette délégation ont pris le pays en otage.
Akere Muna, candidat à la présidence du Cameroun durant sa tournée à Washington. En République centrafricaine, la société civile appelle à l'observation d'une nouvelle journée ville morte ce mercredi, journée de protestation en réaction au regain de violence à Bangui et à l'intérieur du pays. Pour les organisateurs, le gouvernement et la MINUSCA ne font rien pour protéger la population et asseoir la paix. Paul Crescent Beniga, porte-parole du GTSC.
Ceci effectivement pour dénoncer et nous n'allons plus céder. Si le gouvernement ne nous donne pas des réponses fermes, nous allons continuer ces actions et c'est l'occasion ici pour nous de dire à la coalition de faire très attention. Si vous pensez que le gouvernement ne réagit pas, ça suffit pour vous de marcher sur Bangui, vous allez trouver sur vos chemins la population parce que nous allons organiser une défense populaire. Nous allons demander à tous les Centrafricains, nationalistes, patriotes de se lever comme un seul homme pour défendre la patrie.
Paul Christian Beninga, organisateur de la journée ville morte à Bangui. L'opposition togolaise qui proteste contre le régime du président Faure Gnassingbé depuis plus de 7 mois a annoncé l'annulation de ses 2 jours de marche censés démarrer aujourd'hui à Lomé et dans plusieurs villes du pays. Le gouvernement n'avait pas interdit ces manifestations mais avait imposé des itinéraires que l'opposition refuse d'emprunter. La croissance pour 2018 ne devrait pas dépasser 4% en Afrique subsaharienne. D'après le FMI, les bonnes perspectives économiques mondiales, une hausse des prix des matières premières et un meilleur accès au marché international des capitaux favorisent cette légère reprise, mais elle reste insuffisante pour atteindre des objectifs de développement durable. Écoutons le directeur adjoint du département Afrique auprès du FMI, Dominique Deruel.
Nous avons par exemple au niveau des pays exportateurs de pétrole un choc très très important en 2014 dont les effets continuent à se faire sentir vu que ce choc était en termes relatifs peut-être le plus important que ces pays aient connu depuis le début des années 1970. Donc ces pays ont déjà fait des efforts importants au cours des 2 dernières années pour assainir leurs finances publiques mais il leur reste des efforts à faire pour vraiment finir cet assainissement. D'un autre côté, nous avons d'autres pays, comme certains pays d'Afrique de l'Ouest, qui ont, pour des raisons tout à fait raisonnables, poussé l'investissement public de manière à offrir des conditions de croissance meilleures. C'était en soi une bonne chose. Ceci dit, il faut évidemment que ces besoins d'investissement public soient compatibles avec des finances publiques saines et ceci tend à la recommandation de dire qu'il est important de continuer les efforts de mobilisation des ressources fiscales afin de pouvoir à la fois concilier ces efforts de dépenses d'investissement, mais aussi des dépenses spéciales importantes et des finances publiques soutenables à moyen et long terme.
Dominique Deruel, directeur adjoint au département Afrique auprès du Fonds monétaire international. La santé du président nigérien Muhammadu Buhari, qui s'est de nouveau rendu à Londres pour raisons médicales, l'empêche de diriger le pays, a affirmé aujourd'hui le principal parti d'opposition nigérien, le PDP, le Parti populaire démocratique, a également fait part de sa déception au sujet du bureau présidentiel et de ses mensonges sur la santé de M. Buhari. Le président nigérien âgé de 75 ans, qui a déjà passé plus de 5 mois à Londres l'année dernière pour être soigné d'une maladie non dévoilée, est parti hier pour Londres et devrait être de retour le 12 mai.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À ce micro, Jean-Roger Billon. Donald Trump a annoncé le retrait pur et simple des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien avec un retour de toutes les sanctions. Pourquoi avoir pris une telle décision malgré l'opposition des pays européens? Bagassi Koura a posé la question à Brian Neubert, le porte-parole du département d'État.
Le président Trump prend cette décision de se retirer de l'accord nucléaire pour la sécurité des États-Unis, ça c'est l'essentiel. D'après le président, il y a plusieurs problèmes dans cet accord nucléaire qu'il appelait désastreux. Et il faut se rendre compte que l'Iran a toujours l'intention de développer des armes nucléaires.
Il a aussi dit que les sanctions vont être immédiates. Qu'est-ce que ça veut dire?
Nous allons, avec la réapplication de nos sanctions, mettre une pression maximale sur l'Iran. Et ça veut dire que les entreprises et n'importe quelle société qui ont des obligations en ce qui concerne la loi des États-Unis doivent gérer. Mais bien sûr, ça va mettre encore du pression sur le régime de Téhéran.
Qu'est-ce que vous comptez faire avec les Européens pour trouver une solution intermédiaire s'il y a une possibilité?
Les États-Unis restent disponibles, négocier un accord qui sera acceptable, qui pourrait rassurer et améliorer la sécurité des États-Unis. C'est quelque chose que nous avons essayé de faire pendant plusieurs mois et nous restons disponibles. Mais pour les États-Unis, la menace d'Iran, pas uniquement dans les éléments nucléaires, mais dans d'autres éléments, l'Iran menace ses voisins, déstabilise la région, soutient le terrorisme et sont toujours en train d'exporter des armes aux groupes extrémistes. Donc il faut que les États-Unis et nos alliés européens cherchent une solution durable qui pourrait protéger notre sécurité, c'est-à-dire un meilleur accord.
Est-ce qu'il ne faut pas aussi craindre des tensions dans le Moyen-Orient par cette décision-là?
Je pense que pour les États-Unis, comme je disais, l'Iran est une menace. Ils menacent leurs voisins, ce qui n'est pas acceptable. Le président Trump a pris cette décision parce qu'il pense que ça ne protège pas la sécurité des États-Unis, ça n'avance pas les intérêts des États-Unis en général et en particulier dans la région du Moyen-Orient. Et donc, nous allons continuer à gérer cette situation et faire avancer nos intérêts. Mais pour les États-Unis, cet accord n'est pas le moyen.
Brian Norbert, l'un des porte-parole du département d'État, joint à Johannesburg en Afrique du Sud. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a rencontré mercredi à Pyongyang de hauts responsables nord-coréens. Les spéculations sur le sort des trois détenus américains allant bon train avant un sommet prévu entre les États-Unis et la Corée du Nord. Cette visite non annoncée de M. Pompeo, la seconde en quelques semaines, mais sa première en tant que secrétaire d'État, est destinée à faire avancer les préparatifs du tête-à-tête inédit entre Donald Trump et Kim Jong-un sur l'arsenal nucléaire nord-coréen. Gina Haspel, choisie par Donald Trump pour diriger la CIA, passe ce soir, cet après-midi, son grand oral devant le Sénat américain, une audition à haut risque où elle devrait promettre d'empêcher la reprise de programmes de torture de l'agence de renseignement introduit après les attentats du 11 septembre 2001. L'audition de confirmation débute à 13h30 GMT et une partie des débats devrait être publique. Et puis le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé aujourd'hui sa volonté de préserver la coordination en matière de sécurité avec la Russie en Syrie, alors que Moscou soutient le régime syrien et son allié iranien, tous deux ennemis d'Israël. Sa déclaration intervient avant sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou au lendemain du retrait américain de l'accord nucléaire avec l'Iran. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes, ce sera avec Henri Francisque. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.